Je l'avais évoqué, me semble-t-il, lors d'un message précédent. La vie spirituelle doit tenir compte d'un facteur important, et ça va vous rassurer, enfin du moins j'espère, c'est notre côté unique. Il n'y en a pas deux comme vous sur cette planète. Quand j'étais plus jeune, petit, quand j'étais encore avec mes parents, mon père avait l'habitude de dire « Tu es unique, Yves, quelle chance pour l'humanité souffrante ». Vous vous rendez compte, vous êtes après que j'ai des heures et des heures de psychothérapie derrière moi. Il n'y en a pas deux comme vous sur cette planète, même si vous pouvez globalement ranger dans un certain type de personnalité, et qu'il faut rajouter à cela votre hérédité familiale et votre contexte éducatif, bien entendu. On ne vient pas de nulle part. C'est donc une bonne nouvelle, puisque ça signifie en clair que quelle que soit votre nature profonde, autrement dit, ce que les autres ont fait de vous, elle n'est pas un obstacle à votre croissance spirituelle. Alors la question, êtes-vous par exemple une personne spontanée ou plutôt très organisée, n'a donc pas d'importance, en tout cas n'a d'importance que si on a une mauvaise vision de ce qu'est la vie avec Dieu. Par exemple, les personnes spontanées pensent souvent qu'elles ont un désavantage parce qu'elles ont du mal à installer une routine dans leur vie et que la vie spirituelle, dans la conception généralement admise, autrement dit lire sa Bible, prier, etc., comporte une part de routine. Si ça fait des années que vous avez du mal à décider quel type de personne vous êtes, je peux déjà d'ores et déjà vous dire que vous n'êtes pas une personne spontanée. À ce stade, on peut déjà dire quelque chose d'important, me semble-t-il. La combinaison particulière de pratiques, de relations et d'expériences nécessaires à la croissance sera différente pour chacun. J'insiste sur le mot « combinaison » car ça signifie que tout le monde a besoin de certaines pratiques, de relations et d'expériences pour grandir, mais pas obligatoirement les mêmes, au même moment, de la même manière. C'est donc la combinaison de tous ces facteurs qui va produire la croissance, c'est au travers de tout ça que l'Esprit de Dieu va travailler. S'il ne devait travailler que à travers et pendant les temps que vous lui donnez, quand vous ouvrez la Bible de temps en temps, quand ça vous arrive, ou quand vous prenez un peu de temps pour prier, vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il n'aurait pas beaucoup de temps pour travailler dans l'absolu. Hein. Donc, il se sert de tout, pour le dire autrement. Alors j'y reviendrai dans quelques instants, mais ça signifie que tout dans votre vie, y compris les choses les plus difficiles à vivre, sont un matériau que Dieu peut et veut utiliser. Ça ne vous aura pas échappé, vu tout le mal produit dans et par ce monde, il serait en effet étonnant que Dieu ne s'en serve pas. Pour le dire autrement, s'il ne pouvait se servir que du bon produit sur cette planète, il n'aurait pas beaucoup de matériaux à partir duquel travailler. Alors, en réfléchissant à tout ça, il y a un petit détail de la vie d'Abraham Lincoln, un des présidents des États-Unis, qui à bien des égards est une étonnante étude de fonction de caractère. Je ne sais pas si vous le savez, mais Lincoln était, en tout cas de son vivant, c'était de notoriété publique qu'il était très désorganisé. Très désorganisé. Il était tellement désorganisé que pour s'aider lui-même, il avait même un dossier dans son bureau portant le titre « Si tu n'as pas trouvé ce que tu cherches ailleurs, essaye ici, dans ce dossier ». Mais c'est intelligent, il se connaît. Il dit, moi j'ai aucune organisation, il faut que je m'aide. Ce petit exemple de prise de conscience et d'adaptation au réel de ce que nous sommes veut donc dire que rien n'est figé et qu'il y a toujours un chemin à trouver par rapport à qui nous sommes. En d'autres termes, nous avons besoin de redécouvrir la notion de liberté. Et avant tout, de la liberté de découvrir comment Dieu veut que nous grandissions, car son projet pour moi ne sera pas tout à fait pareil que son projet pour vous. Parce que nous sommes tous uniques. Alors peut-être que Dieu nous parle d'une manière particulière au travers de la nature. Il y a des chrétiens qui se promènent dans la nature et Dieu leur parle d'une manière particulière. Ce n'est pas mon cas, mais d'autres oui. Ou peut-être est-ce au travers de la musique. Bon, c'est par contre certain que je dis, ah, je pense que c'est la musique mon truc. Certains feraient bien d'arrêter pour moi, mais soit. Ou encore sommes-nous habités par un besoin de silence et de prière. Ou encore, notre réponse sera-t-elle plus grande au travers des arts et des couleurs, mais nous pouvons dès lors ouvrir les autres à ces aspects-là de Dieu. La nature, bon, ça ne me parle pas spécialement, même si j'aime la nature, hein, comme tout le monde. Mais quand je me promène en forêt, ce qui me vient en premier, ce n'est pas spécialement la grandeur de Dieu, mais c'est moi. Par contre, quelqu'un qui a une sensibilité particulière, cette couleur-là en elle, elle pourra me parler de cette couleur-là, de cet aspect-là de sa relation à Dieu, et ça va m'enrichir, moi. C'est pour ça qu'on a tous besoin les uns des autres. Nos vies spirituelles ressemblent donc à une sauce bolognaise. Ça vous est certainement venu à l'esprit, ça. Certains y mettent plus de tomates, d'autres plus de viande, plus de vin. Si, je continue. Il faut du vin dans la bolognaise, hein, j'insiste. Font plus ou moins longtemps mijoter, certains y rajoutent un certain type d'épices, et puis d'autres pas du tout. Mais une chose demeure, et c'est ce qu'il faut ne pas oublier, pour faire une bolognaise, il faut toujours un certain type d'ingrédients, ou ce n'est plus une bolognaise. Je ne suis pas en train de dire que vous pourrez faire ce que vous voulez dans votre relation à Dieu. Il y a des choses qui devront s'y trouver, mais la façon dont ça va s'articuler, c'est entre vous et lui, et il travaillera par rapport à ce que vous êtes, pas par rapport à ce que moi je suis. Ça aussi, ça devrait vous rassurer. Alors, une bonne nouvelle quand même, déjà une première, il y en aura plusieurs aujourd'hui, en tout cas j'espère. La bonne nouvelle, c'est que la période que vous vivez aujourd'hui, la saison, hein, c'est ce que racontait le premier chant, la saison de votre vie dans laquelle vous êtes n'est pas un obstacle à votre croissance spirituelle. Je m'explique, je donne un exemple. Il y a par exemple beaucoup de mamans qui, devant s'occuper d'enfants en bas âge, n'ont plus le temps, par exemple, de passer du temps dans la lecture de la Bible et de prier. Imaginez en plus que la maman en question soit du type désorganisé, et celle-ci sera en fait habitée par un sentiment de culpabilité. En plus d'être fatiguée, éreintée, elle va culpabiliser parce qu'elle a plus de temps à passer avec Dieu. Elle va donc finir sa journée en se disant « Je suis une mauvaise mère et une mauvaise chrétienne ». Alors, ces femmes n'oseront pas le dire à haute voix, parce qu'on va confirmer dans beaucoup d'églises. Pasteur, je n'ai plus le temps de lire ma Bible parce que j'ai 3 enfants, tu es une mauvaise chrétienne. Alors, c'est dommage que personne ne leur ait dit qu'au travers du soin qu'elles portent à leurs enfants, elles pratiquent en fait une discipline spirituelle qui s'appelle le don de soi. Que le fait de remettre son manque de patience et parfois même d'amour envers ses enfants entre les mains de Dieu était un chemin de transformation du cœur menant à une vie de service librement consentie. C'est fou quand on y réfléchit. Ces mamans pensent encore trop souvent que lire la Bible et prier, ça compte aux yeux de Dieu. Et que prendre soin de leurs enfants, ça ne compte pas. On marche sur sa tête, hein, non? Non? Pour l'anecdote, une maman, je suis sûr que c'est vrai, une maman a réussi à élever ses 3 enfants en bas âge et a continué à passer du temps dans la méditation et la prière. Elle a demandé à Dieu de l'aider à comprendre comment faire. Elle s'est dit, moi je suis débordée avec ces 3 gosses, mais moi si tu m'aides, montre-moi comment je peux faire. Un jour qu'elle passait l'aspirateur dans la chambre des petits, elle a eu son regard focalisé, son attention attirée sur le liquage du Benjamin. Elle s'est dit, non Seigneur, pas le liquage. Juste après, elle a pris sa Bible, son carnet de notes, un bic, et elle s'est mise à genoux dans le liquage. Les gosses sont rentrés dans la chambre quelques minutes plus tard. Elle a dit à ses 3 enfants, dont l'aîné, je crois, avait 5 ans à l'époque, mémoire est bonne, elle leur a dit, quand vous me voyez maman ici comme ça, dans le liquage, c'est qu'elle passe du temps avec Jésus, vous ne la dérangez pas et vous faites moins de bruit. Les gosses ont compris ça. Donc tous les jours, elle se mettait dans le liquage pour passer du temps avec Dieu. Et les gosses ne faisaient pas de bruit. Pour l'anecdote, c'est elle qui raconte. Hein. Pour l'anecdote, un jour, le facteur sonne à la porte. C'est le grand de 5 ans qui ouvre la porte. Il y a un colis pour maman. Le facteur dit « Bonjour mon grand, est-ce que ta maman est là ?»« Oui, mais je ne peux pas la déranger parce qu'elle est dans le liquage avec Jésus. » C'est une histoire vraie. Hein. Il y a quelques années, à titre personnel, une amie catholique m'a dit, alors que je simais ne plus avoir de vie de prière parce que je courais dans tous les sens, et je m'en voulais pour ça. Je dis « J'ai plus de vie de prière. » Elle m'a simplement répondu que le temps que je prenais à m'occuper des autres, ça comptait aussi aux yeux de Dieu. C'était une période comme ça, et il fallait que j'apprenne quelque chose de cette période. Donc la saison, la période dans laquelle vous êtes engagé, au moment où je parle, quelle qu'elle soit bonne ou mauvaise, à vos yeux, n'est pas un obstacle à la formation du Christ en vous. Quelle que soit la saison, elle va offrir des opportunités et des défis de grandir spirituellement. Ça veut dire que plutôt que souhaiter être dans une autre période, nous sommes appelés à découvrir ce que cette période dans laquelle nous sommes a à nous offrir. Quand les choses vont mal, en général, on espère quoi? Que ça aille mieux et d'être à un autre moment ailleurs et que ça soit différent. C'est tout à fait humain et c'est compréhensible, mais Quand les choses vont mal, il va falloir de toute façon apprendre quelque chose, puisque c'est ce que vous vivez. On est dans un éternel présent, nous. Le seul moment qui nous est donné à vivre, c'est le présent. Donc vous dire, j'aimerais tellement mieux que ça, que j'aimerais tellement que ça aille mieux, c'est très humain, mais ça vous aide pas. Qu'est-ce que je peux faire dans ma situation avec ce que Dieu me donne à vivre aujourd'hui? Ça signifie un truc tout bête quand on parle de vie spirituelle. C'est que ma vie compte, toute ma vie compte. Chaque instant est potentiellement une chance d'apprendre quelque chose. Chaque moment est une possibilité d'apprendre de Jésus comment vivre véritablement dans le royaume de Dieu. La vie, notre vie, est une interface justement entre notre vie et le royaume de Dieu. À chaque instant de nos journées, c'est ça que ça veut dire. Nous pouvons ouvrir une porte entre notre royaume, ce que nous vivons, et celui de Dieu. Autrement dit, entre le royaume de notre volonté, de ma volonté, et le royaume de sa volonté, et apprendre à reconnaître celle-ci. Chaque instant est une possibilité de rencontre entre notre royaume, et il l'est puisque c'est celui où j'estime avoir mon mot à dire, ben oui, sur votre propre vie, et celui de Dieu. Car forcément, il n'y a que le Seigneur d'un royaume qui a son mot à dire concernant son royaume. Et c'est le sens profond de cette phrase du Notre Père que nous ne comprenons toujours pas. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La plupart des chrétiens n'ont toujours pas compris ce que ça veut dire. Je vous l'explique. Autrement dit, que mon royaume est le sien, que la terre et le ciel ne fassent plus qu'un, mais aujourd'hui au moment où je parle, et ce royaume ne peut faire plus qu'un dans ma propre vie, à moi. C'est à cet endroit-là, dans l'intersection entre les deux royaumes, que cette volonté de Dieu peut se manifester. Donc c'est pas, oui, que ton règne vienne quand tu reviendras, Seigneur Jésus, dans la gloire, mais maintenant, à la seconde que tu me donnes à vivre. Que cela soit parce que c'est ce que je veux, mais parce que ton royaume, c'est à ça que j'aspire. J'aspire à te rendre la couronne de ma propre vie, afin que toi, tu me fasses entrer dans ce royaume. Je ne sais pas si je suis très clair en disant ça. Mais il faut arrêter de penser que le royaume de Dieu, c'est un truc super lointain, inaccessible encore maintenant. Ça ne fonctionne pas comme ça. Nous sommes appelés à devenir des citoyens de ce royaume au moment où je parle. Le vivre au quotidien. J'aimerais maintenant vous parler d'une chose dont nous ne tenons que rarement compte dans nos vies, c'est le rythme. Le rythme de nos vies. Une des règles basiques de l'existence, c'est le rythme. C'est ce que ce texte qu'on va prendre maintenant de l'Ecclésiaste nous dit. Il n'est pas beau l'Ecclésiaste, c'est un texte qui est en règle générale traditionnellement attribué au roi Salomon, le troisième roi d'Israël. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir, ça commence bien, hein. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, ça ne faut peut-être pas éviter de le mettre en pratique. Et un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour détester. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. C'est un résumé de l'expérience humaine, hein, ça n'est rien d'autre que ça. En gros, il fait, bon, le parenthèse c'est moi Dieu, hein, pour aucun vous n'aurez un doute. Donc Dieu fait toute chose belle au moment voulu. Il peut faire une chose belle alors que vos circonstances sont une catastrophe. Il a même mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Pourquoi est-ce que les hommes n'aiment pas mourir? Parce qu'ils savent très bien, quelque chose en eux leur dit que c'est pas possible. Ils n'ont pas été fabriqués, créés, inventés, oserais-je dire, pour que ça se termine. Même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin, nous ne comprenons pas en permanence et tout le temps ce que Dieu fait en nous et dans nos vies. Donc, on revient à notre notion de rythme. C'est aussi une des dynamiques de ce texte. Le jour suit la nuit, vous avez remarqué. Ben si. Le printemps suit l'hiver. Dans la vie spirituelle, on utilise le mot rythme pour rendre cette réalité. Il y aura des temps, j'ai fait deux grosses parties, hein, c'est plus spécifique que ça, mais pour résumer. Il y aura des temps dans votre vie de consolation et des temps de désolation. Je ne suis pas prophète, hein, c'est comme ça. Durant les temps de consolation, pratiquement prier semble facile. Facile. Car Dieu semble plus proche. Sauf, bien entendu, si vous n'avez pas de chance et vous souffrez d'un sentiment d'abandon non résolu, hérité de votre enfance. Il y aura un travail à faire. Mais normalement, dans les temps de consolation, Dieu semble proche, prier, ça semble relativement facile. Voilà, ça se passe bien. Vous n'allez pas vous prendre par le fond du pantalon pour commencer à passer du temps avec Dieu. Le texte biblique semble vivant. Ça vous dit quelque chose, ouais. Vous n'avez pas l'impression de mastiquer du coton, quoi. Même le péché, la capacité qu'on a tous à faire des bêtises, semble moins attractif. Le feu est vert. Oh, que c'est bien, hein ? Tant de consolation. Alors, ça ne vous étonnera sans doute pas, les temps de désolation sont à l'exact opposé. Je résume. Vous lisez votre Bible et vous avez l'impression de manger du gravier. Ça ne vous dit rien du tout, ça ne vous parle pas du tout, vous retenez rien. La prière ressemble à l'escalade du mont Everest. Comprenez ? Et Dieu semble tout simplement lointain, extraordinairement distant. Alors C.S. Lewis, le papa de Narnia, rappelez, fait remarquer qu'à certaines périodes, Dieu nous transmet justement un fort sentiment de sa présence. Ça peut arriver, et ça arrive. Le désir d'être avec lui, la capacité de résister aux tentations, relativement facile. Franchement, c'est facile, hein, relativement facile. On désire assez spontanément ce que lui veut. On n'a plus trop de combat par rapport à ça. Seulement voilà, ça ne dure jamais. Cette situation ne dure jamais. Ça passe. On change de saison. Tôt ou tard, j'ai employé ce terme-là pour me faire comprendre, hein, Dieu se retire, si pas dans les faits, s'il se retire jamais, hein, du moins dans l'expérience consciente, de toutes les expériences et de tous les supports. On lit la Bible, ça ne nous dit plus rien, on prie, c'est du vent. Il ne reste alors que nous et nos devoirs spirituels à faire. Mais ces devoirs n'ont plus aucun intérêt, n'ont plus aucun attrait. Eh bien, c'est pendant ces périodes difficiles, bien plus que pendant les bonnes périodes, que nous grandissons et que nous nous transformons en l'homme ou la femme que Dieu aspire à voir émerger. Quand nous oublions cette loi du rythme, et c'est ce que nous faisons, me semble-t-il, le plus souvent, on oublie que les saisons sont inévitables sur cette terre. Nous prétendons que la phase dans laquelle nous sommes est faite pour durer indéfiniment. Quand ça va bien, ben je me dis ça va jamais se terminer. Et quand ça va mal, je me dis ça va jamais se terminer non plus. D'accord ? On a l'impression que cette période n'a pas de fin. Eh bien, il ne faut pas faire ça, parce que ce n'est pas juste. Elle aura une fin. Et on devrait plutôt accueillir cette période, quelle qu'elle soit, dans la joie, si c'est une bonne période, ou dans la confiance en Dieu, si c'est une mauvaise période, en sachant qu'il va en faire quelque chose. Il en fait toujours quelque chose. Et parfois, il fait quelque chose il vous fait passer par une période difficile dans votre vie, parce que c'est nécessaire pour que d'autres apprennent quelque chose. Dans les temps de consolation, les bonnes périodes, je suis dans l'illusion de vivre une vie spirituelle digne de ce nom. Oh, enfin, j'y suis. Et dans les temps de désolation, je me dis que j'ai dû faire quelque chose de mal. Ou que Dieu me punit, encore pire ça, pour quelque chose. En fait, les deux saisons sont inévitables et elles apportent toutes les deux leur lot de croissance. Un autre exemple. Ceux qui ont déjà expérimenté de longs temps de prière dans des retraites silencieuses. Eh bien, c'est pas tout le monde, mais enfin, moi, c'est mon cas, pareil. Ben, ces personnes-là savent qu'une fois la retraite terminée, quand ils reviennent, ils quittent le silence, ils perdent en fait quasi automatiquement leur capacité, leur acuité à prier. Ils viennent de passer 2 semaines, par exemple, dans le sud de la France, dans le silence, rythmé par les offices, la petite cloche, la présence de Dieu, pour l'intercession. Et ils disent, c'est super. Et puis, dès qu'ils remontent dans la bagnole pour revenir, ça commence à décliner. Et quand ils reviennent ici, ils se disent, oh, je vais continuer à prier, et ça ne fonctionne plus. Et là, qu'est-ce qu'on s'y passe? On s'en veut à mort de nouveau. Alors que c'est normal. Après une période de grande intensité, on a besoin de se reposer et de récupérer. Parce que le rapport à Dieu, surtout si on intercède dans la prière, mes amis, ça nous vide de quelque chose. La fin du chant disait, je sais que tu m'appelles à me vider pour me remplir à nouveau. Mais il y a un moment, dans l'intersection, on va être vide. D'accord? Quand vous ne mangez pas, vous êtes vide. Donc, cette loi de la nature, qui est une loi immuable, et qui donc fait partie de la réalité spirituelle aussi, signifie que nous avons peut-être tort de prétendre en permanence qu'une seule routine spirituelle va suffire à couvrir tous nos besoins dans le domaine et pour le reste de notre vie. Donc nous connaîtrons, je vous rassure, des temps de croissance consciente et d'engagement spirituel. Mais à d'autres moments, tout ce qui paraissait simple va devenir compliqué. Et nous devrons admettre alors que nous n'avons besoin que d'un peu de persévérance et de beaucoup de plages de récupération. Nous devons à présent prendre conscience d'une chose importante. J'ai envie de dire que c'est la base. Dès que nous commençons à comprendre cette nécessité de s'entraîner à être comme Jésus, il y a inévitablement un choix qui va se proposer à nous. En effet, personne n'entre dans une vie d'entraînement par accident. Il faut choisir de s'entraîner. Les bodybuilders ont consacré leur vie à développer quoi ? Leur corps, nous sommes d'accord ? Leurs habitudes de vie, le temps de repos, les finances, les exercices de régime alimentaire sont tournés vers un objectif. Que les gens puissent les regarder et dire « c'est donc à ça que ressemble un corps à son plus haut potentiel musculaire ». Je n'en avais absolument pas la moindre idée. Le conditionnement en question n'arrive pas par accident. On ne devient pas comme ça par accident. Si vous restez assis dans votre fauteuil en regardant la télé, en mangeant des glaces, je peux vous garantir un truc, vous ne deviendrez pas comme ça. J'ai essayé. Ça ne marche pas. Il est à noter pour l'anecdote, ça m'est venu comme ça, bon, je vous le livre pour ce que ça vaut, que dans certains films mettant en scène des acteurs bodybuildés comme ça, le réalisateur arrivera toujours à mettre sa star torse nu, même en pleine montagne, alors que les autres sont habillés avec des parkas. Vous avez remarqué déjà? Stallone, même dans la montagne, il est torse nu. Schwarzenegger aussi. Et tous les autres sont emmitouflés jusque-là. Mais les autres n'ont rien à montrer. C'est intéressant. Encore une fois, si votre femme, messieurs, vous dit qu'elle n'aime pas ce genre d'athlète, c'est parce qu'elle est extraordinairement gentille avec vous. Une chose reste vraie pour ces hommes et ces femmes, parce qu'il y a des femmes comme ça. J'ai pas osé en mettre, mais ça par contre, moi, je trouve pas ça beau. Une chose reste vraie pour ces hommes et ces femmes, maintenir un tel niveau physique est un style de vie. Est un style de vie. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bien sûr qu'ils prennent des produits, bien sûr. Mais vous pouvez prendre des produits, Si vous ne stompez pas des poids, ça ne marchera pas. D'accord? Ok. Ça, c'était pour l'exemple. Ce que ça veut dire, c'est que ces hommes et ces femmes continuent à être des bodybuilders, même lorsqu'ils ne sont plus dans la salle de musculation. Même quand ils ne s'entraînent pas. Là et là, ils sont encore ça. Et penser donc qu'on arrive à un tel résultat en 2 mois ou en reprenant la natation 2 fois par semaine, c'est totalement irréaliste. Ça ne fonctionnera pas. Dans l'Évangile, Jésus a directement confronté les gens au choix de devenir un disciple ou non. Ce sont les textes, moi, qui me choquent le plus. Son message est clair. À partir de maintenant, il est possible de vivre dans la présence de Dieu et de son royaume. C'est ça, sa bonne nouvelle. Il est donc possible, nous dit-il, de vivre une vie face à laquelle les personnes qui nous entourent diront « Waouh !» C'est l'effet « Waouh !» pour ceux qui ne connaissent pas. « Waouh !» Je ne savais pas qu'une vie pouvait ressembler à ça. C'est arrivé, c'est la bonne nouvelle, à beaucoup de disciples de Jésus et c'est donc possible pour nous aussi. C'est ça la perle de grand prix. Rappelez la petite parabole en Matthieu 13, la perle de grand prix dont Jésus parle, cette perle qu'un homme découvre dans la terre et pour la conserver, il fait quoi ? Il vend tout ce qu'il a parce que c'est ce qui est le plus important. Donc nous sommes venus au monde pour participer à cette course, pas celle-là, à devenir comme ça, mais spirituellement, si je peux dire. Mais encore une fois, nous n'avons pas entré dans cette vie par effraction. Nous devons le décider. Le gars, je ne connais pas. Hein. J'ai pris une image sur Internet au hasard. Au départ, il n'est pas comme ça. Hein. À un moment, il a dit, moi, je veux que mon corps change. Et il est rentré dans une salle de musculation. Et il s'est accroché, il a persévéré, il a souffert. Hein, parce que ça, pour arriver comme ça, je vous assure que ça fait mal. Parce que c'est le principe. Hein. Il faut commencer à pousser, continuer à pousser quand ça commence à faire mal. Donc avant d'aller plus loin dans les prochaines semaines, en abordant quelques disciplines spirituelles pour que vous compreniez que ça ne se limite pas à prier et à lire la Bible, parce que ça change la plupart du temps rien si on ne met pas d'autres trucs en place, j'aimerais poser un diagnostic concernant les disciplines spirituelles en question. Et je terminerai par ça. Afin, du moins je l'espère, de nous aider à prendre conscience que celle-ci touche à notre réalité quotidienne. Ça n'est pas de la théorie, ça n'est pas supposé en être. De ce point de vue, vous savez sans doute que le péché peut être divisé en deux grandes catégories, ce qu'on appelle communément dans la tradition de l'Église, le péché par omission et le péché par commission. Ça ne veut pas dire faire des courses, hein, commission. D'accord ? Et je rappelle qu'en hébreu, péché signifie rater la cible. Et ça veut dire quoi ? Quelle cible ? C'est échouer à aimer Dieu et les autres comme un véritable être humain fait à l'image de Dieu. Comme le dit si bien André Comte Sponville, philosophe de son état et athée notoire, pauvres immoralistes qui ont cru qu'il suffisait de ne plus croire en Dieu pour être délivrés du mal. Sponville n'y croit pas en Dieu, mais il sait que le mal reste. Et que si on n'offense pas Dieu, ben on offense les hommes, on blesse les hommes. Et la raison de dire par ailleurs que si on ne croit pas en Dieu, la notion de péché disparaît parce qu'on ne peut pas offenser quelqu'un qui pour nous n'existe pas. Par contre, les fautes restant envers les hommes, et elles sont innombrables. Donc dans ce cas, péché, c'est offenser l'humanité en soi ou en l'autre. C'est pour cette raison, et on ne le comprend pas souvent, que la Bible dit que l'on pèche d'abord contre Dieu, même si l'offense dans les faits a été commise envers un homme. Vous savez ça, hein ? David, quand il confesse son péché à Dieu, dans Psaume 51, alors qu'il vient quand même de faire assassiner un homme, il dit à Dieu, « J'ai péché contre toi seul. » Alors quand on lui sent, on dit, ah, il va quand même, David, s'il te plaît, il dit, t'as quand même buté un type. Dieu étant l'être par excellence, c'est donc toujours lui que l'on offense lorsqu'on pèche contre un être humain. Et cet être humain, ça peut être soi-même. Parce que Dieu est à l'origine de l'existence de cet être. Vous comprenez ? C'est comme si en tant que parent, on blesse votre enfant. C'est pas vous qu'on blesse, c'est votre enfant. Pourquoi est-ce qu'on vous fait du mal à vous aussi ? Parce que cet être qui est votre enfant, vous êtes à la source de cet être-là. Vous comprenez ? On ne peut donc pas pécher contre un homme sans pécher contre Dieu. Il fallait, je pense, rappeler tout ça, puisque la vie spirituelle consiste à aimer Dieu et les autres. Les disciplines mises en place nous aideront donc pratiquement, et je termine, à ne plus faire de mal à Dieu, à soi ou aux autres. C'est ça l'objectif, vraiment. On reprend mes péchés par omission. Je redéfinis ça parce que c'est important. Vous allez comprendre pourquoi. Le péché par omission consiste à ne pas faire ce que nous devrions faire. Une personne âgée tombe dans la rue, je dis j'ai pas le temps, quelqu'un d'autre la ramassera. Péché par omission. Si vous avez fait un accroche-pied à la madame, c'est un péché par commission. Vous vous placez dans une des deux catégories. Moi je suis dans la troisième, bien sûr. Oh madame, je peux vous aider, voilà. Le péché par commission consiste à faire ce que nous ne devrions pas faire. Vous comprenez ? Foutre une claque à notre voisin, parce qu'il fait trop de bruit. Par exemple. De la même manière, Dallas Willard, un penseur chrétien, relève que nous pourrions mettre les disciplines spirituelles dans deux catégories. Les disciplines de participation et les disciplines d'abstinence. Faire, ne pas faire. Je l'explique. Les disciplines de participation impliquent de faire intentionnellement, volontairement certaines choses. La louange, l'étude de la parole de Dieu, la participation à la vie communautaire de l'Église, donner de ses biens matériels sont des disciplines de participation. Je pose un acte, je décide de faire quelque chose. D'accord ? Par contre, les disciplines d'abstinence impliquent que je m'abstienne de faire certaines choses. Celles-ci incluent par exemple les pratiques du jeûne, à certains moments. On peut jeûner pas seulement alimentairement parlant. Si vous avez un problème avec la violence, arrêtez de regarder des séries violentes. Il faudra jeûner au niveau de la télé. Arrêtez de la regarder. Si vous avez un problème de pornographie, il faut arrêter de regarder des trucs pornographiques. Il faudra jeûner à ce niveau-là. faudrait rajouter aussi, en termes d'abstinence, passer du temps dans la solitude et dans le silence. Alors voilà où je veux en venir pratiquement. Si je me bats contre un péché par commission, je trouverai de l'aide en pratiquant une discipline d'abstinence. D'accord ? Autrement dit, si mon problème, par exemple, c'est que je fais quelque chose que je ne devrais pas faire, j'ai besoin de pratiquer une discipline qui va renforcer ma capacité à ne pas faire. Ok ? Si par exemple, vous avez tendance à vous vanter, vous êtes bruxellois, ce qui est un péché par commission, vous le faites, vous posez un acte, quelle discipline va probablement vous aider ? Le silence. Mais encore une fois, ne dites surtout pas ça à un bruxellois parce qu'il ne comprendra pas. Il faudra apprendre à vous taire. Non, mais c'est, ouais, c'est très pratique. Hein. Si je me bats par contre avec un péché par omission, je trouverai habituellement de l'aide dans une discipline de participation. Si, par exemple, mon problème implique une faiblesse à aimer ou à encourager les autres ou à servir les autres, j'ai besoin de pratiquer une discipline qui va renforcer ma capacité à faire les choses. Par exemple, si vous manquez cruellement de la capacité à vous réjouir. Youpi, la vie est belle. Bienvenue chez moi. Vous devrez vous immerger dans une discipline de la célébration. Pardon. Oui, j'ai pas l'habitude. Definitely. Anyway. Car, et je termine vraiment par ça. Et ça. Car la joie est une discipline spirituelle. On parle de joie partout dans la Bible. C'est une discipline spirituelle. Ça ne vient pas tout seul. Il faut s'entraîner. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.